Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Le dernier message que nous avons partagé ensemble, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines peut-être, vous soumet. Ah, j'ai eu peur parce que je me dis, mais j'étais tout seul ce jour-là. Non, mais vous êtes fidèles. Alors, c'était le maître des horloges. Notre vie, notre monde est fait avec le temps. J'ai eu cette pensée, tout simplement, de vous parler de Dieu, de son temps, des hommes, de leur temps. Et puis à travers, finalement, cette dispensation dans laquelle nous sommes, où tout est réglé, tout est marqué dans la vie, que ce soit d'une manière ou d'une autre, par le temps. Heureusement, nous avons la météo pour nous sauver. Nous allons tout simplement, je voudrais faire une petite révision, tout simplement, et nous allons évoquer tout de suite, dans un premier temps, Dieu qui est le maître du temps et des circonstances et de l'espace. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que notre petite planète, c'est rien du tout au regard de l'infini. L'infini qui nous est donné, que nous pouvons contempler. Et on se dit, mais véritablement, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme sur la Terre? Alors, je rappellerai que Dieu est présent. Je suis. Ça, c'est ce que nous apprenons. Il est partout, il est en tout, et il est surtout. Alors, comment imaginer, finalement, ce qu'est Dieu? Alors, on va essayer de découvrir des choses et de rappeler certaines choses. Il est immuable, c'est les termes qui sont donnés en théologie, invariable, il ne change pas, et sa puissance est souveraine en tout, partout, surtout. On peut le rappeler de cette manière. Le temps qui passe, n'est pas une affaire de mélancolie. Ah, le bon temps. Lorsque j'étais jeune, lorsqu'il y avait ceci, lorsqu'il y avait cela, surtout lorsque la vie se complique, on a toujours la tendance à regarder vers le passé, dans nos bons moments, dans tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est fait. Et ce n'est certainement pas une affaire de regret ou de remords d'un monde qui nous a échappé. Il n'y a pas moyen de l'arrêter, le temps. Ça, c'est une vérité. Donc, nous voyons que tout cela, ce sont des faits. Dieu était, et puis Dieu sera. Et le livre, dans ces fameux livres poétiques que nous avons dans la Bible, et qui nous en parle, tout simplement. Forcément, le temps appelle à la réflexion. Ben oui, bien sûr, parce que Dieu nous a donné un passé, nous le connaissons. Il nous a donné un présent, c'est ce que nous vivons maintenant. Et puis, il nous a donné une formidable espérance, ou on peut l'appeler espoir, pour ce que sera, pour les croyants, pour ceux qui ont la foi, ce que sera, tout simplement, demain. Donc, pour se développer, pour, comment pourrait-on dire, évoluer, pour grandir, pour vieillir, et pouvoir identifier et bénir notre Créateur, il faut tout ça à la fois. Il faut que nous puissions, avoir, parce que Dieu nous a donné l'intelligence par rapport à toutes les autres catégories. Les plantes, ça ne réfléchit pas. Les animaux, il y a un instinct, c'est vrai. Mais les hommes, il a une intelligence. Dieu lui a donné, cette capacité. Les Écritures, et en cela je voudrais préciser la Bible, parce que c'est elle qui révèle, nous offre des bienfaits, ou les bienfaits et les profits, du temps. Ouais. Il y en a qui vont se morfondre toute leur existence et ils ne voient rien, que d'autres finalement dénuent la chambre, que des choses terribles, que des choses négatives. Peut-être qu'ils ont vécu des choses, forcément, qui les a amenés à avoir eh bien, une âme quasiment moribonde. Mais par contre, à côté de ça, et ça peut aller jusqu'aux extrêmes, eh bien, finalement, de faire feu de tout bois, et nous voyons qu'il y a des profits, qu'il y a des bienfaits, si nous savons tout simplement les voir. Alors Dieu, à ce moment-là, eh bien, se sert du temps pour le savoir en même mot, comprenez, hein ? Il nous a donné la sagesse, et on en parlera d'ici quelques instants. Il nous a donné, eh bien là, la compréhension de l'usage que nous en faisons de notre temps. Il y a des gens qui passent leur temps à perdre leur temps, et perdre leur temps aux autres, hein, naturellement, hein, qui gâchent le temps, qui pourrissent le temps, en quelque sorte, hein, excusez-moi parce que je suis assez direct, hein, voilà, et du temps et de l'histoire. Et c'est vrai que ça fait un drôle de monde tout ça, hein. Vous vous rendez compte, Dieu a donné quelque chose qu'on appelle le temps, et puis dans ce temps-là, c'est comme dans un aquarium, hein, il y a tout et n'importe quoi dedans, hein, et il y a des bonnes choses. Maintenant, il faut savoir si nous sommes au fond de l'aquarium ou nous sommes au-dessus, hein. Voilà, tout simplement. Alors il y a naturellement un aboutissement, et ça fait partie du temps, parce que c'est inexorable, c'est l'après-vie, la grande chose qui terminera notre existence terrestre, et bien là, dans la sérénité, et dans une sérénité qui ne se limitera pas à notre petit cocon du temps que nous vivons, mais à l'éternité. Donc, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, c'est en lui, hein. Alors, il peut se donner toutes sortes de dieux, toutes sortes d'idoles, toutes sortes de raisons, de philosophies, hein, de théologie, de religion, enfin, toutes sortes de choses. Tout ça, c'est véritablement dans le temps, hein, quoi qu'il en soit. Nous allons reprendre le texte que nous avions vu la dernière fois dans la première partie. Il demeure cette parole que nous allons ouvrir, et c'est dans simplement Corinthiens, et nous allons le relire parce que ça va être finalement le temps de pouvoir nous pencher et de pouvoir en tirer, eh bien, du profit. Alors, dans 2 Corinthiens, il est dit ceci au chapitre 6, et au verset 2, où on peut tout simplement lire le verset premier, mais bon, c'est surtout le suivant. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous sommes avec Dieu, puisque nous vivons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais. Le temps, c'est une distribution de grâce que Dieu a donnée. Maintenant, de cette grâce, on en fait ce que l'on veut. On y croit ou on n'y croit pas, naturellement. Alors, au temps favorable, je t'ai exaucé. Ouais. Il y a un temps pour Dieu pour nous exaucer. Nous, on est souvent pressés d'être exaucés. Ça va plus vite, parce que finalement, on a des besoins, et des besoins urgents, brûlants. Alors, au temps favorable, c'est le temps de Dieu, c'est pas nous qui le fixons. Je t'ai exaucé aujourd'hui, eh bien, c'est le jour du salut. Je t'ai secouru maintenant, et c'est toujours aujourd'hui, c'est le temps favorable. Alors, nous avons naturellement, eh bien, cette parole sur laquelle nous allons nous appuyer pour, eh bien là, en effet, évoquer la suite, parce qu'elle est intéressante sur plusieurs aspects. Le maître des horloges, c'est à lui. C'est lui que nous regardons, et c'est lui qui va nous enseigner. D'abord, quelle valeur a le temps pour les hommes? Eh oui, c'est tout à fait très divers, hein. Quelle valeur? Valeur du temps pour chacun d'entre nous. En raison de ce que nous sommes, nos activités, en raison de ce que nous attendons, ce que nous espérons. Alors, vous savez, le temps, il est particulièrement, en effet, il est divers. Pour celui qui est en prison, le captif, c'est long, hein. À moins qu'il trouve le moyen de prendre, on pourrait peut-être, de prendre sa liberté. Mais enfin, on ne va pas le laisser faire. Il y a toujours un temps pour le prisonnier de sortir de prison lorsqu'il a, eh bien, assumé sa peine. Et puis, la liberté, c'est un temps aussi. C'est quelque chose de formidable. Surtout quand on était captif. Quand on était, eh bien là, contraint d'être sous la volonté de gens qui nous ont renfermés, qui nous ont maintenus dans le renfermement, c'est les esclaves. C'est terrible. On a des belles histoires. Enfin, belles, je retire. Mais des histoires d'esclavage dans la Bible, c'est que ça. Hein. Hein, les Hébreux en Égypte, à Babylone, sous la férule des empereurs de cette époque, des Romains qui ont piétiné finalement la Palestine, Israël. Et puis ça ne finit pas aujourd'hui, vous savez. Vous êtes au courant du... Vous prenez les nouvelles du temps. Pas la météo, mais la géopolitique, c'est très intéressant en tous les cas. Alors voilà, donc, la captivité... Il y a également, eh bien, ce que nous avons dit, la liberté, qui finalement est quelque chose de vécu comme à la libération en 1945. Hein, vous avez vu, là, des gens ont été comprimés pendant des maltraités, et à un moment donné, c'est la liesse. Hein. Et là, il se passe toutes sortes de choses. Et puis, les opportunités qui peuvent se faire dans le temps. Dieu nous a donné un temps peut-être mauvais, un temps qui est bon. Et puis là, on profite de la situation, on s'engouffre, on devient fou. Hein. Vous savez, avant la Grande Guerre, il y a eu l'époque, la folie, hein, les années folles, ça c'était après la première, mais avant la première, la belle époque. Il ne pensait pas qu'il allait y avoir quelque chose qui allait véritablement faire mourir pratiquement le monde, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, je voudrais préciser que le temps s'enfuit. Oui, la fuite du temps. Et on peut pas prendre ce temps et le mettre dans une boîte et puis peut-être l'ouvrir. Alors, vous avez des albums de photos pour ça. Hein, voilà. Et puis maintenant, il y a beaucoup plus que dans technologie. Le temps s'enfuit. Et on pourrait dire que nous vivons dans une société où, eh bien, nous vivons un phénomène de chronomètre. C'est plus la montre. C'est plus la vieille horloge. Hein, c'est plus ce que nous avons connu, ou comment, vous savez, le cadran solaire. Là, il faut rester à côté pour que ça bouge naturellement. Mais bon, c'est des repères. Ce sont des repères, le temps du chronomètre, et on va de plus en plus maintenant vers des performances par rapport à ça. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose. Hein, et c'est le temps que nous vivons. Et puis, je voudrais vous dire aussi, à cause de le temps qui fuit, eh bien, c'est la vitesse. On vit dans un siècle de vitesse, vous vous rendez compte? Tout va vite. Hein, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait des avions maintenant qui voleraient à Mach 1, Mach 2, et puis peut-être plus, hein, parce que quand on voit les missiles et tout ça, vous pouvez envoyer une lettre de Moscou à Washington en l'espace de quelques minutes. Hein. Je parle de l'atomique, là. Enfin, tout ce qu'il peut avoir, moi j'y connais pas grand-chose, mais toujours est-il... que le temps tue en voiture, il tue dans bien des choses, il tue parce que finalement, eh bien là, on pressure les gens et on leur demande de ceci, de cela, même s'ils n'ont pas de voiture. Hein, le monde vit mal avec ça. Hein. Ou alors il vit dans une folie d'aller toujours plus vite. Alors, on en est là, c'est vrai, c'est le temps qui nous tue. Le temps d'hier et le temps d'aujourd'hui. Et vous avez souvent entendu, même quelquefois, les chrétiens qui ont parlé avec ce langage. Ah, le passé, c'était le meilleur. Quand j'avais 20 ans. Ben oui, mais j'ai plus 20 ans. Ça, c'est clair. Et puis, on s'aperçoit que plus on vieillit, plus le temps passe vite. On se le dit avec Myriam. On se dit, mais c'est pas vrai. Nous, on se revoit encore jeunes mariés. Et puis, on se dit, mais quand tout ça, ça passait, mais ça fait 50 ans, ça fait 60 ans. Ben oui. Hein. Alors, naturellement, eh bien, ça c'est aussi une constatation, mais avec le regret souvent. Hein. Ah, quand il y avait ceci, quand il y avait cela, etc. Et beaucoup de gens vivent avec l'inconfort du présent. Ouais. C'était bien dans le temps. Oh, ça sera meilleur après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est malheureux. Ah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Je sais pas, vous êtes malheureux. Je vous rends malheureux. Je suis venu pour votre bonheur. Alors, oui, à travers des impressions qui quelquefois sont complètement erronées. Hein. On pense que c'est comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Les sentiments, les circonstances, parce que je vous l'ai dit, Dieu est maître du temps et des circonstances. Ça ne va pas, ça ne dépasse pas, c'est véritablement bien cadré. Alors, on pourrait peut-être dire un mot, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, qu'il est le maître des horloges. Eh bien, il y a un temps au ciel. C'est pas le mot approprié, mais parce que le ciel, c'est l'éternité. Alors, comment vous expliquez ça? Bon, facile, hein? Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que ce qui sera long, c'est l'éternité vers la fin. Ça n'en finit pas. Mais on aura une dimension qui sera tout autre. Alors, le temps au ciel, le temps sur la terre. Et moi, je voudrais vous parler en deux mots. Un bien du temps sur la terre, c'est une belle prière d'un homme qui a vécu 120 ans. Oh, ça va ? 120 ans, ça, c'est pas long, hein ? C'est bien. Allez, on va faire une expérience avec Jean, on va lui demander ce qu'il en pense. Mais on sera peut-être plus là pour te le demander. Hein. Bon. Toujours est-il, on va prendre le psaume 90. Écoutez, c'est un beau psaume. Alors, le psaume 90, on va prendre donc... Le verset 2 à 4, il est dit ceci, « Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu étais pour nous un refuge. De génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Alors, on va aller un peu plus loin, car, écoutez bien, car 1000 ans sont à tes yeux, aux yeux de Dieu, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme la veille, comme une veille de la nuit. Et puis nous avons également dans le verset 12, me semble-t-il qu'il est particulièrement eh bien, pertinent, il est écrit, parce que c'est véritablement la prière à la réflexion du temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Mes frères et sœurs, il faut le demander tous les jours. Enseigne bien, enseigne-moi bien à bien compter ma journée qui vient. Je ne connais pas, je connais celle d'hier, mais je ne connais pas celle-ci. Et puis peut-être on peut y rajouter, Seigneur, tu connais le mois, l'année qui vient devant moi. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui en es le maître. Enseigne-moi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions, que nous engagions à la fois eh bien, notre volonté et notre pratique de ce que tu m'as montré pour être, pour faire, pour dire, pour me taire parfois, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, le maître mot dans cette affaire, temps et sagesse. Beaucoup de gens prétendent être sages. Ils passent pour des sages, que ce soit en politique, que ce soit dans une diversité de philosophies, que ce soit... Eh bien là, même en religion, vous savez, tous les religieux, dans toutes les religions, quelquefois on les appelle sages, hein, on les appelle saints, etc. Mais qu'est-ce que c'est? L'homme est toujours l'homme, quoi qu'il en soit. J'aimerais vous dire deux mots maintenant, ce que c'est de perdre son temps. Mais perdre son temps, et puis toutes les contrariétés que nous pouvons avoir, que nous pouvons ressentir, ce sont les contretemps de la vie. Où les choses espérées n'arrivent pas ou vont tarder à arriver. Et vous savez, il est dit, ce proverbe, dans la Bible, il est dit, en effet, prie Dieu, apporte à Dieu eh bien, tes prières, parce qu'en effet, si tu le fais avec foi, croyez que ce que vous avez demandé, vous le verrez s'accomplir. Et le grand problème pour nous les hommes attachés au temps et enfermés dans un prison de temps, eh bien, c'est que si nous voulons véritablement eh bien, aller jusqu'au bout, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, mais on ne sait pas le quand, le comment et le où. Ben oui. Et pourtant, Dieu nous dit, Jésus nous dit dans l'évangile de Marc, eh bien, croyez-le, attendez. Vous savez, les églises, nos églises, et puis tout ce qui peut représenter le monde hein, protestant évangélique, évangélique avant tout, mais toujours est-il que quelque part, en effet, même quand vous voyez eh bien, des choses qui vous contrarient, quand il y a des contretemps, quand il y a ceci et cela, la salle se remplit, c'est formidable, c'est extraordinaire, et puis la salle se vide. Alors là, moi je suis triste, je suis malheureux. Mais si nous prions, si nous mettons comme fondement, eh bien c'est essentiel, ce fondamental qu'est la prière et que nous demandons avec confiance, eh bien vous verrez qu'une église vide, elle se remplit.
Amen.
On l'a vécu, hein. Ça fait 50 ans qu'on est dans le ministère pastoral, eh bien on l'a vu. Ça passe comme les flots de la mer, marée basse et marée haute. Et je suis un marin, je sais de quoi je vous parle. Hein, j'ai un aquarium chez moi. Alors, contre-temps de la vie, les folles précipitations, parce qu'on croit qu'on va rattraper le temps, parce que Dieu n'a pas encore répondu. Ne vous découragez pas, je vous en prie. Parce que quelquefois, c'est au dernier moment que Dieu répond. Là où on n'espère plus. Il nous est dit d'Abraham, croyant contre toute espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, croyant contre toute? Persévérez, mes frères. Moi, c'est ce que je suis venu pour vous le dire. Hein. Parce qu'on est renfermé dans quelque chose, hein, quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, les folles précipitations. Et il y a marqué, enfin, j'ai cet adjectif folle, parce qu'elles sont pas sages. Hein. Et on fait des bêtises, quelquefois, en pensant qu'on va se sortir d'une situation. Et là, on fait des bêtises. Je voudrais vous parler également du temps encombré. Oui, il y a des gens qui, finalement, eh bien, et on donnera une petite anecdote à la fin, ce sera la conclusion. Oui, il y a des gens qui, finalement, eh bien, ne vivent que dans les encombrements de leur vie. Oui, c'est comme ça, c'est tout. Soit ils n'ont pas été disciplinés pour ranger, ou alors, voilà, c'est dans leur tête, c'est comme ça, hein, le temps encombré. Le temps que l'on surcharge inutilement, alors que finalement il n'y a pas de besoin. Voilà. Où tout déborde et en même temps. Alors c'est là où on peut se noyer, hein. Ça c'est clair. Hein. Il y a également, et ça revient à ce que nous avons dit précédemment, mais on va le nourrir un petit peu, c'est rêver. Oui, les rêveries, rêver d'un autre temps où, dans une autre perspective, les voleurs de temps. Alors, ce ne sont pas des messieurs avec des gants en noir et puis un masque, hein, les voleurs de temps. C'est ce que vous voulez prendre, quelquefois, je parle pour moi, stupidement, en disant, mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire autrement. Et il y a des voleurs dans notre vie. Alors, je ne vais pas vous les citer, parce que, bon, dans un monde d'intensité, d'informations téléphoniques, c'est vrai qu'il ne sonne plus beaucoup le téléphone chez nous, hein. Et puis l'Internet, etc., il y a des voleurs de temps, hein, en disant, ben, j'aurais pu faire ça parce que c'est important, mais je vais faire ceci parce que ça me distrait. Alors, bon, chacun comme, il pensera comme il voudra. Rêver d'un autre temps, meilleur, parce que celui-ci, on s'ennuie tout simplement, et les voleurs de temps, et permettez-moi, ça peut nous conduire, eh bien, tout simplement, au temps des illusions. J'avais pensé, j'avais espéré, et puis on s'aperçoit que finalement, c'est exactement le contraire qui se produit. Alors là, c'est plus que des illusions, ce sont des pleurs et des larmes, dans certaines choses, hein. Je ne parle pas pour des banalités. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? On rattrape le temps. Est-ce que c'est possible de rattraper le temps? Il faut bien courir, hein. Il faut être en pleine forme. Il faut être sportif, non, pour rattraper le temps. Parce que le temps qui est perdu, il est perdu. Eh oui, on peut toujours refaire, bricoler, rapiécer, raccommoder, rabibocher. Vous savez ce que ça veut dire le mot rabibocher? Moi, c'est ma femme qui rabiboche mes chaussettes. Je ne le fais pas moi-même parce que je ne suis pas très doué. Mais toujours est-il, on essaie de rattraper. Rattraper, ben ouais, un défaut, des choses comme ça, enfin bon. Alors, à ce moment-là, il y a deux choses qui vaillent, c'est la discipline et la maîtrise pour gagner du temps. Ben, alors, on le perd, on le rattrape, et on essaie de le... Mais même avec la meilleure des disciplines ou la maîtrise de nous-mêmes, il faut quelque chose qui va peut-être favoriser, pas rattraper complètement, et voilà, tout simplement, c'est discerner les bons et les mauvais choix. Il y a des gens qui font toujours des mauvais choix. Ils se disent c'est des bons. Ils s'engagent et ils s'aperçoivent que c'est pas bon. Mais on lui dira. Mais il y a des choses, avec un peu de sagesse que Dieu est capable de nous donner, si véritablement il nous est dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et si vous manquez de sagesse, nous dit un apôtre, eh bien, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu et il vous la donnera simplement et sans reproche. Vous vous rendez compte? C'est bien, hein? Non, ça peut l'air d'être bien pour vous. Mais bon, c'est pas grave. Si, c'est bien. Hein? les bons et les mauvais choix, les bonnes et mauvaises décisions. Parce que quelquefois, on est pris avec des... Comment dire? Une sorte de folie. Une sorte de... d'un idéal aussi. Les idéalistes souffrent beaucoup, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que bon, ils se disent, voilà... Et ne soyez pas trop méticuleux. Hein, parce que vous savez, les gens religieux du temps de Jésus, c'était des pharisiens. Et ils poussaient finalement l'idéal jusqu'à des détails complètement insignifiants. Et ils en avaient fait leur religion. Et l'essentiel était oublié, tout simplement. Alors il y a quatre choses que je voudrais placer devant vous. Elles sont simples. C'est l'indispensable dans la vie. Parce que je parle toujours du temps. L'indispensable, le temps indispensable. Les choses à faire dans ce temps, parce que ce sont des choses indispensables. On ne peut pas couper à ça, il faut le faire. Pas de problème. Il y a le nécessaire en deuxième point. Alors le nécessaire, bon ben ouais, il y a quand même une part de choix, une part de faire marcher, et bien là, notre pensée, notre intelligence, qu'est-ce que je fais? L'indispensable, j'y suis contraint. Il n'y a pas à faire autrement. Le nécessaire, eh bien c'est quelque chose qui, quelque part, il y a ma conscience aussi dans tout cela. Hein, parce que c'est nécessaire. Et puis après, il y a l'utile. Alors l'utile, c'est important aussi. Hein, ouais, important. Et puis, il y a l'agréable aussi. Et Dieu ne nous défend pas de l'agréable. Et il y a quelquefois des chrétiens qui sont tellement ridés, rivés, on ne peut pas se permettre de rire, on ne peut pas se permettre de ceci, on ne peut pas se permettre même des bonnes choses que Dieu a données. On ne veut pas en profiter parce que c'est comme ça. Mais mes frères et sœurs, vivez aussi avec l'agréable parce que c'est Dieu qui vous l'a donné pour votre plaisir et votre bonheur. Et il y a des chrétiens qui sont tellement renfermés dans leur... petite cabane là que finalement il ne voit rien. Et puis en plus, il l'impose aux autres. Moi je ne ris pas, alors vous ne riez pas non plus. Hein. Moi je ne sais pas faire rire les gens, mais bon. Voilà. Alors, l'indispensable, le nécessaire, l'utile, l'agréable. Et permettez-moi d'ajouter ceci, mes frères et sœurs, si vous êtes des chrétiens qui véritablement honorez votre Seigneur, votre Dieu, notre Dieu. Alors, c'est le secret du contentement. Dieu veut que nous soyons heureux. Eh oui, il veut, et ça dans l'espace du temps naturellement. Alors, je voudrais vous parler maintenant des projets et objectifs prioritaires. Oui, prioritaires. Vous allez peut-être être déçus, mais je vous dirais que c'est le repos. Alors que nous sommes dans un monde où c'est la nécessité. Tu vas de plus en plus vite, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais des efforts, 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 efforts. Mais Dieu est un Dieu qui prend soin de sa créature. Oui. Et c'est pas la peine de se défoncer, c'est pas la peine de faire plus qu'eux. Et il y a un zèle qui était le zèle des pharisiens, vous connaissez. Hein. Jésus dira, mais ils ont de l'intelligence, ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est un zèle sans intelligence, parce que finalement, ils le font pas pour Dieu, mais ils le font pour eux. Pour être bien vu, pour être connu, pour être populaire, etc. Donc, le repos, mes frères et sœurs, prenez du repos quand vous en avez besoin. Avant de vous retrouver dans un hôpital ou pour cause de crise cardiaque et tout ça. C'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Mais il ne faut pas l'oublier. Hein. La réflexion, il faut réfléchir de savoir ce que l'on fait de notre corps. C'est important. Il y a en comptabilité ce qu'on appelle le prévisionnel. Je vais revoir. Parce que c'est normal, hein. C'est la loi, naturellement. Alors, ça touche à l'espérance de l'avenir et notre position en tant que chrétien. D'abord le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, pas votre faiblesse, dans le calme et la confiance. Confiance en qui et confiance en quoi? Ça, c'est véritablement le grand dilemme que nous avons, nous les hommes sur la terre. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux? Pour le chrétien, confiance en qui? Dans celui qui nous a sauvés, qui nous sauve, et qui est là près de nous. Et confiance en quoi? Eh bien dans ses projets, les meilleurs pour chacun d'entre nous, tout simplement. Il y a un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, et on l'a appelé « La foire aux vanités ». Eh oui, c'est marqué hein, d'ailleurs, « La foire aux vanités ». Voilà, et c'est tout un panel eh bien, de choses que l'homme, en effet, se livre, et qui ne sont que des vanités. Vous savez ce que c'est la vanité? Ça pourrait se traduire par le néant. Il n'y a rien. Vous ouvrez la boîte du cadeau, là. Hein, vous avez un emballage, vous avez du bolduc, et puis vous ouvrez, il n'y a rien du tout dedans. Il y a des gens qui courent après ça. La foire aux vanités, tout simplement. Alors, naturellement, tout ça, eh bien, présente des avantages. Ça dépend comment c'est vécu et des inconvénients. Dans Ecclésiaste, si vous voulez me suivre, enfin, vous restez à votre place, hein, mais... Si vous voulez me suivre, on voit dans Ecclésiaste quelque chose qui est bien, là, moi, il me semble. C'est Ecclésiaste chapitre 8. Regardons le chapitre 8. Et il est dit cette parole, pleine de bon sens, 8 et verset 5. Il est dit ce mot, qui est le sage, verset 1er, qui connaît l'explication des choses, la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face, eh bien, est changée. Alors, verset 5 que je le retrouve. Celui qui observe les commandements ne connaît point une chose mauvaise. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Oui, car il y a toute chose, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, ce qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance pour le combat, car la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et nous ne sommes pas, frères et sœurs, en raison de notre foi, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas des saints, mais nous avons été sauvés de nos péchés, nous avons été pardonnés, et maintenant Jésus-Christ, à cause de la croix et de son sacrifice, eh bien, nous a fait rentrer dans la justice de Dieu. Et oui, tout simplement, c'est cela, et c'est ce qu'on appelle le prévisionnel, tout simplement. On peut être réaliste ou pessimiste, mais demandons à Dieu que Dieu nous mette la joie, parce que c'est un des fruits de l'esprit, la paix, la joie, la paix. Ça va ensemble, hein? Et si vous avez l'amour, eh bien ça va vous donner eh bien de l'amour, de la paix, non, la joie d'être aimé, et puis ça va vous apporter la paix, tout simplement. Les inquiétudes et les tourments du temps, dans les temps et pour tous les temps, ça c'est ce que Dieu veut. Je voudrais vous dire également que il est minuit à l'horloge de Dieu. On a besoin des chrétiens pour le savoir. On voit que finalement, en raison des régimes, en raison de la politique, en raison des époques, en raison des conquêtes, en raison des empires, des royaumes et tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voulez. Moi, je crois que quelque part, eh bien, puisque Jésus revient, nous le croyons, il revient bientôt. Ça se pressent en ce moment, je ne vais pas vous dire que dans combien de temps, mais en ce moment, en tous les cas, nous avons tout le nécessaire, hein, de feu pour véritablement voir Jésus revenir. Alors, on peut dire que nous sommes à minuit moins quelques, je ne sais pas, et bien là, parce que le maître des horloges, et bien nous dit encore, il nous dit encore, au temps favorable, je t'ai exaucé. Tu as prié, un temps favorable va venir. Ce sera peut-être le grand jour. Ce sera peut-être le jour où nous partirons personnellement de l'autre côté. Mais la mort n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. Elle va nous délivrer de, finalement, nos prisons. Ça, c'est clair. Hein? Au jour du salut, je t'ai secouru. Quand tu as appelé, que tu as compris que tu étais un pécheur et que tu étais perdu, eh bien, tu m'as appelé, et moi, je t'ai envoyé, eh bien, la foi dans ton cœur pour que tu crois en Jésus, qu'il a pris ta place, et que maintenant, eh bien, tu es sauvé, tout simplement. Voici maintenant le temps favorable, ça approche à l'horloge de Dieu. Voici maintenant le jour du salut, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, oui, aujourd'hui, mais demain, le grand jour va arriver. Voilà, et nous devons nous nourrir, et nous enthousiasmer de ce que Dieu a préparé, son plan, et qui ne manquera pas, finalement, eh bien, de se réaliser. Une première conclusion, ça va, je peux continuer? Vous le dites, hein, parce que si, autrement, on se met à table tout de suite. Hein. Bon, alors, conclusion. Il est dit, enseigne-moi, on l'a vu, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions, que nous mettrions notre cœur, eh bien là, en application de notre cœur, dans les conditions, à la sagesse, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse, même quand il y a des tempêtes et des ouragans. Je voudrais finir par une anecdote, puisque je vous l'ai dit. Le temps est une ressource démocratique. Bravo, hein ? On n'a pas besoin de définir avec un drapeau bleu, blanc, rouge, mais toujours est-il que... Ah oui. Le temps, donc, est la chose la plus démocratique qui soit. Chacun peut disposer de son temps dans sa totalité. Pas de rétrécissement, pas de renversement, ceci et cela. Dieu nous a donné un temps à chacun. Voilà, un temps de vie. Un temps, on ne peut pas vendre le temps. Il y a mon ami qui me dit, tiens, dis donc, je manque de temps, tu peux pas me donner un petit morceau, je te l'achète. On n'en connaît pas la valeur, ça c'est sûr. On ne peut pas vendre le temps. On ne peut pas non plus le voler à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait la mode. Hein. Vous avez besoin d'un collier ou des choses comme ça, vous cassez une vitrine de bijoutier, et puis ben, vous volez. Mais le temps, il n'est pas en vitrine, hein. Il est là, tout simplement, volé à autrui. On ne peut pas acheter, puisqu'on ne peut pas tout simplement le vendre. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le stocker. Eh oui, c'est comme l'électricité, ça, c'est pareil, hein. Il faut que ça soit consommé tout de suite. Hein. On ne peut pas l'économiser. Vous savez, j'ai mis du temps de côté, parce que j'en avoir besoin pendant mes vacances. Voilà. Et ça ne fait pas, ça. Hein. On ne peut pas. Vous allez voir pourquoi je vais en arriver à un mot. On ne peut pas fabriquer du temps. Tiens, je vais aller dans mon petit atelier, puis je vais mettre, je vais fabriquer une dizaine d'heures. Hein ? Bon, il faut d'abord savoir le faire. On ne peut pas le multiplier et on ne peut pas modifier le temps. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui a décrété les choses. C'est lui qui fait le temps. Le seul usage possible du temps, figurez-vous, c'est l'aménager. Vous allez voir, je vous ai une petite histoire pour vous. C'est l'aménager. J'aménage mon temps. Qu'est-ce que je fais ? Bon, mon épouse me demande de faire la vaisselle. Oui, c'est propre. Ça peut me servir à me laver les mains, ça c'est sûr. Mais toutes sortes de choses comme ça. J'aménage parce que j'ai plusieurs choses à faire dans la journée. J'ai un planning, mais pas possible. Hein. Alors, comment je fais ? Pour que je puisse arriver au bout, parce que j'ai un projet, voilà, il y a une perspective. Alors, c'est aménager le temps. Et c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Apprends-nous, applique-nous à bien compter nos jours, à compter nos heures, à compter nos minutes. Le temps qu'on s'en serve ou qu'on ne s'en serve pas, ne disparaîtra jamais. Et il reste présent. Hein. On a dans l'histoire, eh bien, les choses, finalement, le temps est toujours là. On parle du temps, certainement chez les Gaulois, on parlait du temps, chez les Romains, on parlait du temps de Napoléon, on parlait du temps, et puis on parle du temps encore aujourd'hui. Il ne disparaît pas. Il est évident ainsi qu'il n'est pas renouvelable. Oui, on a des énergies renouvelables aujourd'hui, hein, c'est ça. Mais le temps, il n'est pas renouvelable. On ne sait pas quoi faire. Hein. Alors, je voudrais mettre devant nous, et ce sera la fin de notre message, je voudrais vous présenter le temps en image. Mais ce ne sera pas là-dessus. Ce qu'on appelle l'espace-temps. Vous savez, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est une familiarité quand on veut expliquer les choses. Espace-temps. Le temps, nous l'exprimons, et ça c'est quand même un signe d'intelligence de l'humanité, nous l'exprimons en heures, en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies, en siècles, etc., etc. Et on va beaucoup plus loin, parce qu'on parle aujourd'hui, si on va chez les archéologues, hein, de millions et de millions. Hier soir, je regardais comment le Colorado eh bien, a percé les canyons et tout ça. Il parlait de 5-6 millions d'années. Ah oui. Alors, on se dit, on n'est pas arrivé tout de suite, hein, quoi qu'il en soit. Mais bon, il y a quelque chose qui nous dépasse dans tout ça. Et j'aimerais prendre un schéma. Dans une pièce de dimension identique, soit un rectangle, un cercle ou un carré, bien, tout pareil, naturellement. Nous voyons qu'il n'est pas question, si nous voulons l'aménager, qu'il n'est pas question de repousser les murs pour l'agrandir. Non, on n'y touche pas. C'est comme ça, c'est 10 mètres carrés, enfin bon, tout ce que vous voudrez, vous pouvez l'imaginer. Ou la réduire, ou réduire la pièce. Hein. C'est pas comme ça. Et pour la faire plus grande ou la faire plus petite. Tout dépend de son aménagement, d'un sage et judicieux aménagement. Dans un petit espace de 10 mètres carrés, ça peut être le grand bazar. Et puis, alors, je ne peux plus passer. Je ne peux plus rien faire. Tout est plein du plafond, du sol au plafond. Et je ne peux pas non plus, eh bien là, faire le contraire. Tout dépend de son aménagement lorsque nous considérons l'espace que nous avons. Alors, à ce moment-là, puisque j'emménage, je vais disposer des meubles à l'intérieur. Mais, c'est peut-être pas votre cas, mais on n'a pas grand-chose chez nous, hein, dans l'ensemble. Hein. Il y a pourtant un grenier, il y a une cave, il y a des débarras, il y a toutes sortes de choses. Mais quand on regarde et quand on déménage, on se dit, oh, dis donc, comment on va faire? Si on doit déménager et tout cela, et bien sûr, le porte-bagages du vélo, ça va faire beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, on va voir comment on va faire. Plus on l'aménage en quantité, je dis bien en quantité, parce qu'on a beaucoup de choses, eh bien à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'abord, on réduit la place, parce que bon, c'est comme ça, la place libre. Et plus on va l'encombrer, alors on va serrer. Mais moi, je voudrais rentrer maintenant dans la chambre ou dans la maison, mais je ne peux plus, il n'y a plus de place pour moi. Alors, si c'est un débarras, ça va, mais si c'est pour y vivre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On peut accumuler en désordre, et moins on disposera de l'espace où, eh bien, il va s'en trouver finalement, on va s'en trouver à court d'espace. On ne va pas pouvoir finalement habiter, on ne va pas pouvoir vivre dans cet espace-là. Et nous pouvons dire que là, dans cette situation, on va faire tenir soit beaucoup de choses, mais sans nous, ou alors peu de choses, et là, ça va être le vide. Certains auraient l'idée, tout simplement, pour avoir plus de place et moins de meubles dans ce carré, on peut dire ça comme ça, eh bien, ils ont trouvé l'idée, tout simplement pour l'agrandir dans l'espace vital, eh bien, ils vont se contenter de mettre un lit, une chaise, une table, point final. Là, ils vont avoir de la place. Mais alors, comment vivre dans ça? Eh bien, le temps, c'est la même chose. Je vous ai donné une idée, hein. C'est tout simplement une pensée qui, moi, m'avait séduit il y a des années. C'était un journaliste politique qui avait sorti dans un livre qui s'appelait « L'art du temps ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était tout à fait formidable. Dans une pièce comme ça, si vous mettez 200 chaises, eh bien, vous allez pouvoir avoir peut-être la capacité de stocker 200 chaises, mais je ne vous dis pas dimanche prochain, hein, parce que vous aurez de la place pour vous asseoir, mais il n'y aura plus de place pour vous, hein, de toute façon. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le temps, c'est ça. On l'encombre. On fait toutes sortes de choses, ou alors on le vide complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus rien du tout. Alors là, vous avez de la place et vous avez de l'espace et vous pouvez respirer. C'est ça l'histoire. Vous comprenez? Je l'explique bien. Parce que c'est vrai que j'ai déjà du mal à le comprendre, moi. Bon, enfin, toujours est-il que je voudrais vous faire passer quand même, voilà. Alors la moralité, et je vais finir, l'espace-temps et la réussite, hein, du temps qui nous est imparti. Parce que bon, nous avons choisi, c'est Dieu qui a mis les choses, hein, et ça a bien été fait. Dépend avant tout de notre capacité à gérer, de notre capacité à réfléchir, de notre capacité à envisager ce qui sera le meilleur pour nous. Parce que si vous avez des armoires, des louis, des fauteuils et tout ça, ça ne servira à rien tout ça, parce que vous ne pourrez même pas rentrer. Et puis si vous voulez tout vide, vous n'aurez même pas le confort. Et Dieu nous a donné un équilibre dans tout ça. C'est notre tête, c'est notre cœur, ce que nous aimons. Voilà. Et si nous aimons, eh bien, avant tout, celui qui a fait les choses, alors à ce moment-là, il nous donnera, eh bien, ce qui sera nécessaire pour vivre à sa gloire et rendre un bon témoignage, parce que si vous invitez des gens, une dizaine de mes gens, de gens dans 10 mètres carrés, on va être plutôt serré, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fouillis ? Ça c'est sûr. Et bien le temps c'est pareil. Les gens, quelquefois, ont un espace-temps où c'est le fouillis. Et puis d'autres, qu'est-ce qu'on fait ? C'est du quoi faire, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à voir. Alors, je pense que c'est notre capacité à réfléchir bien, bon, apprends-nous à bien gérer les choses, à gérer notre temps. C'est ça la question. Et nous sommes dans un monde où là, on veut tout faire. On veut toucher, on peut le dire. Hein. Et je crois que c'est Dieu qui donne la sagesse bien à notre cœur. Car racheter le temps, comme le dit l'apôtre, c'est Paul qui le dit dans un autre passage, car racheter le temps, c'est rendre utile ce don divin du temps pour notre vie, la gloire de Dieu et la bénédiction des uns et des autres. Que Dieu nous bénisse maintenant. Alors voilà, nous allons tout simplement remercier le Seigneur et puis après nous continuerons notre culte. Merci à tous, merci à vous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a des réflexions qui provoquent dans notre vie pratique, qui provoquent dans notre vie habituelle, actuelle, et bien qui fait que soit nous sommes à l'étroit ou sommes véritablement dans un espace de vide. Et il y a des chrétiens qui sont dans le vide, qui ne savent pas, qui s'ennuient, qui sont là en effet, et bien là sans perspective, qui sont là à se demander pourquoi ceci, pourquoi cela, et qui passent leur temps, et bien tout simplement, à des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Et puis il y a ceux qui sont complètement étranglés, asphyxiés, oui Seigneur, il y en a d'autres, parce qu'ils veulent tout faire dans la vie, et ils n'auront jamais le temps de tout faire, on n'aura jamais le temps, eh bien en effet, de tout comprendre et de tout réaliser. Seigneur, eh bien nous voulons te dire, et dans ces mots, Seigneur, applique-nous dans nos cœurs à véritablement, eh bien, organiser, aménager, pour vivre notre temps, non pas pour notre bien-être seulement, ça c'est le résultat, c'est la conséquence heureuse, mais pour ta gloire. Et nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions, parce que nous croyons que la parole de Dieu c'est une sagesse, une grande sagesse pour le temps présent, celle l'a été pour notre passé, mais nous voyons que nous sommes encore qu'à moitié route, parce que dans le ciel, tout sera parfait. Merci mon Dieu. Amen.